Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Vous êtes à l'écoute de RDIWA sur la FM 107.5 et 101.7 pour le Haut-Diwa. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement à un événement artistique, culturel qui va se dérouler dans la commune de Val-Drôme. Et avec moi au studio, donc on a un des artistes phares qui sera présent pour la représentation. Et Michel également, qui est une habitante de la commune de Val-Drôme et qui est à l'initiative de ce beau projet. On en parle tout de suite sur l'antenne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Michel, pas compliqué à retenir, chers auditeurs, Michel au masculin et au féminin. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter tous deux, s'il vous plaît ?
Alors moi j'habite dans le Diwa depuis une trente-deuxaine d'années. À Minglon, exactement. Je suis guitariste. Je suis un peu spécialisé dans la guitare à 12 cordes. On n'est pas nombreux dans le monde, on est très peu. Donc il y a cette spécialité-là. Et puis, je suis influencé par toutes sortes de musiques. J'ai été en Inde. J'ai démarré aux États-Unis en 1975, il y a déjà longtemps. J'ai passé 6 mois en Inde, 10 ans plus tard. Et je compose et j'improvise des morceaux, principalement donc, sur la guitare à 12 cordes. À base toutes ces influences. Comme je suis quelqu'un de très influençable, finalement, toutes les musiques que j'aime entrent en moi et je me sens un petit peu comme un appareil photo. Je suis sensible un peu. Voilà, je n'apprends pas vraiment. Par exemple, je suis incapable de jouer un vrai raga de l'Inde, mais j'ai appris beaucoup de choses sur leur sonorité, par exemple sur la richesse sonore. Voilà, enfin bref, et donc je suis professionnel, comme on dit, je donne des concerts de guitare souvent seul, quelquefois en duo, la preuve, avec Alexis tout bientôt à Val-Drôme, et en France et à l'étranger. Voilà.
C'est pas mal, en France et à l'étranger, quelques concerts, trop bien. Comment ça se fait que vous êtes arrivé dans notre petite commune alors il y a 32 ans ?
Il y a 32 ans. En fait, je suis arrivé à Boulk en 1980. Et c'est à Boulk que j'ai développé toutes mes techniques de guitare à 12 cordes. Je faisais déjà des concerts. J'ai eu beaucoup de chance, jeune, parce que j'ai pu faire un disque dans une très grosse boîte d'édition qui s'appelle Disque AZ, qui m'a permis de me lancer sur le plan national très rapidement. J'ai fait les plus grosses émissions de radio et de télé à l'époque. Ça a duré 2 mois. Et puis, ça s'est arrêté assez vite parce que je n'ai pas voulu faire ce qu'ils me demandaient. Et quand on n'accepte pas d'être dans un moule extrêmement précis, pour être un peu radical, je dirais que je n'ai pas voulu vendre mon âme au diable. J'ai voulu continuer de faire selon mon propre chemin. Je ne le regrette pas puisque finalement, maintenant, je joue vraiment ma musique et je ne dépends guère que de moi.
Donc vous n'êtes pas influençable, vous êtes inspiré, mais vous n'êtes pas influençable alors, parce que vous savez garder vos propres décisions et votre éthique concernant la musique aussi.
Sur ce plan, j'ai vraiment été, j'ai voulu garder ma liberté. J'ai senti que ça n'était pas juste que je joue, par exemple, comme on me le proposait à l'époque, j'avais 21 ans, de jouer devant un orchestre symphonique. Parce que je savais pertinemment que dans l'orchestre symphonique en question, il y avait des musiciens qui étaient bien meilleurs que moi. Je ne méritais pas cette place-là. Donc j'ai répondu oui, à condition que le jour où j'écrirais toutes les partitions. Et je n'étais pas capable de le faire. Donc j'ai quitté Disque AZ et j'ai fait après des disques à compte d'auteur. Tout en restant quand même en tournant suffisamment quand même pour continuer d'exister, quoi. Donc c'est un gros travail de faire ça seul, mais voilà, je le paye cher, puisque celui qui m'a remplacé chez Disque AZ est devenu milliardaire peu de temps après, en francs. Mais j'ai gardé ma liberté et je ne jouerai jamais la même musique si je n'avais pas fait ce choix. Un peu radical, certes, mais efficace quand même. Donc voilà.
Michel, de l'autre côté du micro, donc à l'initiative de ce projet à tout cordes avec donc Alexei.
On dit Alexis, Aigui.
Aigui et donc Michel Gentil, donc guitare, violon, ça vient de tout ça, enfin ça vient de vous, tout ça. Parlez-nous un petit peu de cette envie de proposer ça aux habitants de Val-Drôme.
Et en fait, modestement, je suis une personne qui aime la musique et la bonne musique. Je suis assez exigeante là-dessus. Et donc, je n'habite pas Val-de-Rome. En fait, je viens en vacances à Val-de-Rome, dans la maison familiale de mon compagnon. Et l'été, on aime bien avoir des événements. Et j'aurais voulu faire quelque chose pour le village de Val-de-Rome. Et un jour, je suis allée l'année dernière à la journée du patrimoine et je suis rentrée dans la cathédrale pour monter dans le clocher. Et quand je suis rentrée, j'ai été complètement séduite, happée par une musique qui venait du cœur de l'église avec de l'orgue et un violoniste. Et ce violoniste m'a complètement transportée. Je suis restée assise et j'ai arrêté toute activité, même pensée, puisqu'il m'a vraiment transportée. Et donc, je me suis dit, ce serait un beau cadeau à faire aux gens de Val-de-Rome si je pouvais l'inviter. Et donc, je suis allée le voir à l'issue du concert et je lui ai demandé s'il acceptait éventuellement de faire un concert donc en été dans ce petit village de Val-de-Rome, perdu là-haut dans la montagne, 800 mètres d'altitude, presque le bout du monde. Et il me répond avec son accent russe, il me dit « pourquoi pas ?» Et donc, je me suis dit « c'est bon, il m'a donné son adresse mail et je ne l'ai plus lâché ». Et il a entraîné dans son sillage Michel, garçon à côté de moi, présent. Et je pense que ça va être un magnifique concert. Je leur ai donné entièrement carte blanche parce que je suis impressionnée par leur CV. Moi, je ne suis pas du tout musicienne, j'aime la musique, c'est tout. Et voilà, donc à tout corde, carte blanche à Alexis et Michel.
Le nom de l'événement vient de vous aussi ?
Ah, c'est mon compagnon qui me l'a soufflé. J'avais mis à tout corde toutes les cordes, mais il m'a dit à tout comme un atout. Et donc, je pense que c'est bien mieux que ce que j'avais trouvé.
C'est très chouette. Cette représentation, ça se passe donc le 29 juillet à 18h et on me souffle dans l'oreillette que c'est déjà tout complet. Malheureusement pour les auditeurs qui pourraient nous écouter en ce moment et avoir envie, victime de son succès, du coup, ce concert-là.
Oui, en fait, je voulais déjà privilégier un peu les Val-de-Romois puisque je l'ai organisé pour eux. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis livrée à faire, j'ai fait du porte-à-porte pendant 2 jours. Et en 3 jours, tout était soldé, acheté, voilà. Et la jauge, elle n'est malheureusement que 70 personnes dans le temple. Mais je pense que j'en aurais vendu bien plus si j'avais pu avoir un endroit plus grand. Mais bon, ce petit village va être un petit écrin merveilleux pour la musique, je pense.
Absolument, oui.
Et puis, quitte à garder cette idée de côté pour une autre fois avec un petit peu plus de monde.
Peut-être.
Je vois aussi que du coup, vous êtes appuyé quand même sur l'association Les Amis de Val-de-Rome et la commune de Val-de-Rome elle-même pour la réalisation de ce projet.
Oui.
Quel rôle ils ont joué
Alors, eux, ce sont, on va dire, c'est l'entité qui organise, qui sponsorise, qui paye les musiciens. Et la commune de Val-de-Rome, tous les deux, ont donc mis un petit peu d'argent au panier pour pouvoir payer les musiciens. Et j'ai tout fait, les affiches, la démarche, voilà. Et ils m'ont juste dit, toi aussi, tu as carte blanche, fais ce que tu as à faire. Et ils m'ont fait confiance et je les en remercie, voilà, parce que c'est pas évident, voilà.
Il y a l'air d'avoir beaucoup de confiance entre vous déjà, entre vous deux. Alexis aussi qui a bien voulu revenir. Pour porter ce projet avec la commune, on sent que c'est parce que l'envie authentique était là en fait au début aussi.
Exactement. Moi, je suis très reconnaissant auprès de Michel parce que elle c'est pas du tout son métier. Elle avait un autre métier et elle s'est lancée là-dedans véritablement par passion. Elle a été, comme elle disait, scotchée par la musique d'Alexis et finalement ça porte loin et elle a réussi à faire ce que beaucoup de gens, même des professionnels, n'arriveraient pas. Je le dis franchement, je te remercie, Michel.
Ah bah, je t'en prie.
Et quelle est votre histoire avec Alexis, du coup? Comment
Alexis. Ouais. Alors, j'ai rencontré Alexis il y a une bonne quinzaine d'années. Il s'est installé à Die, je pense, quelques années plus tôt. Il y a peut-être presque une vingtaine. Je parle à quelques années près, je ne sais pas trop. Il s'est installé à Die. Il avait un appartement à Die et un appartement à Moscou. Et Alexis, qui écrit beaucoup de musique de film, faisait partie aussi d'un groupe qui s'appelait 437, qui tournait dans le monde entier. Et donc il prenait, je me souviens le voir prendre une prendre le train pour aller à Paris de Die, puis un avion pour aller à Moscou. Puis, comme il était embauché à l'époque par le gouvernement russe pour une tournée dans les centrales nucléaires dispersées sur tout le territoire russe, il reprenait un avion de Moscou pour aller dans la ville la plus proche de la centrale, puis un camion qui marchait à 40, à moins, qui marchait, il fallait que ça marche parce qu'il faisait moins 40 dehors, donc il n'était pas question qu'il tombe en panne. Arriver, faire le concert devant les 2000 personnes qui travaillaient dans la centrale, dormir dans un hôtel tout près et puis se réveiller tôt le matin pour repartir, prendre un autre avion. Enfin, moi, je l'ai appelé le cow-boy parce que finalement, il avait quelque chose d'assez extraordinaire de ce point de vue-là. Et c'est un musicien qui est Alexis, pour en parler un peu plus. C'est un compositeur de musique de film qui a fait beaucoup, beaucoup de choses dans ce domaine et qui aussi donne des concerts. Je l'ai donc rencontré à Die il y a une quinzaine d'années. Et à l'époque, il y avait le Bar à Die. Ce n'était pas Andarta qui existe aujourd'hui, qui est une sorte de café-théâtre tenu par Valentina, elle-même russe. Ça s'appelait le Bar à Die. Mais enfin, c'était déjà un petit peu ça, c'est-à-dire il y avait possibilité de faire des concerts dans ce petit lieu adorable. Et donc, on en a fait deux ensemble, deux, trois. Et puis, ça marchait très bien. Mais le temps est passé. Après, on était pris l'un et l'autre par nos activités. Et on s'est retrouvés il y a quelques mois pour redonner un concert là-bas. Et là, on s'est dit, bon, allez, on va faire quelque chose un peu sérieux ensemble. Voilà, l'histoire continue maintenant. L'histoire reprend. On ne s'est jamais quitté complètement, mais on a pas fait de concert pendant presque 8-9 ans. Voilà. Donc là, on a repris cette année.
Donc les concerts sur le territoire de la Drôme, c'est quelque chose que lui, comme vous, vous connaissez quand même. Vous avez plusieurs oui. fois joué ici.
Plus moi que lui, parce que moi, étant ici depuis une trentaine d'années, même si je tourne loin souvent, la plupart du temps, je ne vis pas dans ma région, mais j'ai toujours organisé 2-3 concerts par an ici dans le Diois. Donc, de ce point de vue-là, j'ai été assez régulier. Alexis, moins, parce qu'il tournait beaucoup en Russie. Il enregistrait aussi beaucoup de musique, de films. Donc là, il travaille chez lui à ce moment-là. Et puis il enregistre dans des studios en France et à l'étranger. Là il est en train d'enregistrer à Rochefort aujourd'hui, là, cet après-midi. Il a composé, je crois qu'il m'avait dit un jour, qu'il composait en moyenne 5 minutes de musique par jour. Et comme il commence déjà à avoir de l'expérience et de la longévité, ça représente des centaines de minutes, des centaines et des centaines et des milliers de minutes. Donc il a composé énormément. Alexis, c'est quelqu'un, contrairement à moi, qui est capable d'écrire de la musique pour orchestre, pour grand orchestre, et diriger l'orchestre. C'est-à-dire qu'on le voit, donc il dirige un orchestre symphonique si besoin, quoi. Donc il a cette capacité, en plus d'être un soliste au violon d'exception, quoi. C'est quelqu'un qui... Il vole.
Et c'est des minutes précieuses qu'il va nous faire partager, du coup, notamment, donc principalement aux habitants de Valdrome. Qu'est-ce que vous pouvez trouver d'atypique, vous, à jouer dans justement cette petite commune, comme elle disait, presque à l'autre bout du monde, reculée? Il y a aussi quelque chose de très... sensible, authentique.
Moi j'adore jouer dans ces lieux. J'adore. En plus, le temple, je le connais. J'y ai fait un concert il y a quelques années. Ça devait être en 2018. Il sonne très bien, très 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 bien. Et moi j'aime. Comment dire? Évidemment, quand on est musicien, on a envie de jouer sur des grandes scènes et on le fait de temps en temps. Mais c'est souvent beaucoup plus humain, beaucoup plus sympa, beaucoup plus authentique de jouer dans des petits lieux. On trouve là une inspiration toute particulière. Donc, si c'est la passion qui nous dirige, et dans ces métiers, si la passion ne nous dirige pas, on arrête le métier. Alors on est touché par ces lieux. On est particulièrement touché par ces lieux-là. Valdrome est un village magnifique, hein. Effectivement au bout du monde, mais il y a une âme et les gens sont solidaires. J'avais à l'époque rencontré, je crois que c'était l'adjoint au maire, qui avait été très sympa, qui m'avait ouvert la porte du temple très gentiment. Lorsqu'on joue dans des grandes salles, les gens sont sympas aussi, mais ils sont entre guillemets blasés. Avant vous, il y a Johnny qui passe la veille, ou il y a quelqu'un d'autre le lendemain, beaucoup plus connu que vous. Et vous arrivez, ils peuvent être très sympas, mais c'est un petit peu, je cherche le terme.
Presque à la chaîne, quoi.
quoi.
Un petit peu. Ils font leur boulot.
Oui, oui.
Alors, plus ou moins bien. Des fois, très, très, très bien. Ouais. Il y a des très, très bons professionnels, quand même. Ce n'est pas du tout le problème. Mais ils sont dans un contexte qui ne leur permet pas d'être dans la passion tout le temps, tous les jours. Voilà.
Et donc là, vous allez retrouver une ambiance assez conviviale.
Absolument.
Du coup, pour le coup.
Oui, tout à fait.
Oui, parce qu'après, on va dîner ensemble à l'auberge de Valdrome.
Voilà.
Voilà. D'accord. Et puis, on va pouvoir échanger peut-être. Plus...
Avec le public présent.
Oui, peut-être.
De toute façon.
À la fin du concert, oui.
Oui.
Là, il y a une jeune femme qui s'est arrêtée devant l'affiche ce matin. Elle a dit, je suis violoniste. Elle me dit, vendez-moi un billet. J'ai dit, m'en reste un, je vous le vends. Elle était toute contente. Et donc, elle va venir au concert. Et elle va probablement vouloir échanger un peu avec eux, quoi.
Est-ce que vous profitez, vous, de ces petits moments, justement, pour être plus proche de votre public et des gens qui peuvent être sensibles à votre travail de création ?
Absolument, et c'est ça, c'est un des grands intérêts de ce genre de situation. Après les concerts, moi, je prends toujours le temps. Je prends toujours le temps, et là, on peut discuter, on peut rencontrer les gens. Absolument, oui, tout à fait.
Combien de temps ce concert, ces prestations entre vous et...
Et Alexis, on compte en général entre 1h15 et 1h30.
Par personne ou à vous deux ?
À nous deux. Mais on joue ensemble tout le
D'accord,
temps.
D'accord, ok.
Tout le temps. Alors là,
je ne connais pas le répertoire, hein, c'est une surprise. Là, il est en train de dévoiler des secrets.
Oui.
Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, en fait.
Principalement des morceaux de ma composition sur lesquels Alexis va virevolter comme un oiseau multicolore.
Très bien. Donc, en fait, il se met sur vos...
Pour la plupart, il a aussi des morceaux. Et puis, on voudrait pouvoir prendre le temps de travailler un répertoire plus équilibré, puisque il est lui aussi compositeur, de façon à pouvoir présenter des compositions d'Alexis en plus grand nombre. Là, il y en aura une, sauf erreur. On aurait voulu en faire plus, on n'a pas eu le temps. Mais on se connaît bien maintenant, on est très amis. On est capable aussi d'improviser. Et l'improvisation... Pour moi, dans la musique, c'est stupide de le dire comme ça. J'allais dire, c'est de la grande musique. C'est ça la grande musique. C'est pas tout à fait vrai. Dans la mesure où il n'y a pas de grande musique, mais
il y a une forme de magie, de co-créer comme ça.
C'est l'instant présent.
Ouais.
C'est ici et maintenant. Donc c'est ce qui est le plus difficile en musique. C'est ce qui se travaille pendant toute une vie et en général, au bout de la vie, on en voudrait une deuxième pour pouvoir s'améliorer encore. Donc quand on improvise, on est dans l'écoute. On est dans l'écoute très, très, très profonde, avec une grande concentration et une grande capacité d'adaptation. Donc, l'un va faire un petit trait et l'autre va répondre à ce trait. Donc, il y a toute une partie du concert qui sera improvisée. Pas tout, mais une grande partie, on va dire ça comme ça.
Vous êtes arrivé en studio tout à l'heure aussi avec un de vos albums. Donc, à la suite de cette interview, on découvrira un petit peu l'univers artistique à la fois d'Alexis et le vôtre. Mmh. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de cet album tant que vous êtes au studio et au micro de Erdiwa ?
Alors, c'est assez marrant parce qu'une grande partie de cet album a été enregistrée par moi dans des églises et des temples lors d'une tournée que je faisais il y a déjà un moment dans le Diwa.
Ce qui va très bien avec le contexte.
Absolument.
Magnifique.
J'enregistre tous mes concerts parce que justement j'ai beaucoup de mal à enregistrer en studio dans la mesure où j'ai besoin d'un public, j'ai besoin d'une spontanéité, j'ai besoin de m'adresser à quelqu'un et s'adresser à un micro c'est quand même un petit peu froid. Ça se fait, ça s'apprend, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi là-dedans et moi je me sonorise avec des très très bons micros et du coup j'enregistre toujours et après une quarantaine de concerts en général je choisis les meilleurs passages et je sors un disque.
Très chouette.
Voilà.
Très très bien. C'est sympa aussi de faire comme ça plutôt que de travailler sur le disque et le jouer en tournée, faire la tournée et sortir le disque.
Exactement. Et en fait, je fais tout à l'envers par rapport à mes collègues qui effectivement font un disque puis après cherchent des concerts en disant « Hey monsieur, j'ai fait un disque, vous pouvez m'embaucher ?» Moi, je fais exactement l'inverse.
J'ai fait une tournée.
Je peaufine les morceaux, je les peaufine en concert des dizaines et des dizaines de fois. Et lorsque je les estime assez... lorsqu'ils me surprennent moi-même, lorsque je me trouve... incroyablement bon par rapport à ce que je suis d'habitude. À ce moment-là, je choisis un morceau et je le mets dedans. Mais il faut vraiment que je me surprenne. C'est-à-dire, j'attends ce moment-là. Voilà.
Quand on monte un projet comme vous avez décidé, comme vous avez initié celui-ci, on a peut-être un petit peu des attentes, des envies. Quelles sont les vôtres ?
Écoutez, je crois que j'en ai pas. Et c'est très bien comme ça parce que j'aime la surprise. et que je pense que je vais être surprise. Et vraiment, vous parliez de confiance tout à l'heure, bah moi c'est vraiment sur la confiance. J'ai entendu quelques morceaux, pour moi c'était bon quoi. J'ai pas besoin de plus et je n'attends rien, c'est le meilleur moyen de d'abord de pas être déçue. Et je pense que je ne serai pas déçue de toute façon. Mais voilà, j'attends rien, je leur fais entièrement confiance.
Et du coup, tout à l'heure, vous parliez de votre manière assez atypique de faire de la communication, là, en faire du porte-à-porte directement chez les gens. Est-ce que ça a surpris un petit peu les habitants d'avoir ces artistes-là dans la commune ? Ou est-ce que pour certains, ça va être une découverte aussi, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas et qu'ils auront l'envie en fait, et la curiosité de découvrir Michel et Alexis ?
Oui, en fait, il y en a qui étaient très surpris de me voir frapper à leur porte parce qu'ils ne sortent pas beaucoup. Et donc, je les ai convaincus de sortir pour ce concert et ça a marché. Donc, pour eux, ce sera une surprise et une découverte également. Et puis, d'autres qui avaient lu sur le flyer que j'avais fait avec Michel et Alexei ont vu le, on va dire, comment je peux dire, le parcours de ces deux artistes et ils m'ont dit oui, tout de suite, sans problème. On te fait confiance, on leur fait confiance et on prend des places. Et puis, les places aussi, le prix des places est quand même. On va dire très abordable, puisque c'est quand même un concert, moi je trouve, avec des artistes exceptionnels à 10 euros. Je ne sais pas où on peut trouver ça encore. Je trouve ça plutôt chouette, quoi. Mmh. Voilà. Donc, oui, c'est l'association aussi qui porte, du coup, s'il y a un surcoût, c'est l'association qui va le porter.
Donc, il y avait quand même cette envie de créer du lien, enfin de donner aux gens l'envie de sortir et de découvrir aussi.
Oui. Oui, parce que dans certains villages ou dans ce village, comme tous les autres, on s'endort un peu des fois. Mais Valdrome est très actif, de plus en plus actif. Et je trouve que vraiment, c'est un petit village où il se passe plein de choses. Il y a eu des pièces de théâtre de très bonne qualité avec le théâtre de Die. Il s'appelle le Théâtre des Airs, c'est ça ?
Théâtre des Airs,
en compagnie avec le Théâtre des Airs. Il y a ce concert-là, il y en aura un autre le 5 août avec du piano et des récitants. Et je trouve que vraiment, c'est un village. Et j'ai rencontré il y a deux jours un conseiller municipal qui me dit qu'on espère que ce concert-là sera le premier d'une série d'excellents concerts à Valdrome. Donc, on va essayer de continuer un peu dans cette lancée.
C'est quand même très chouette d'être à l'initiative et de donner envie à ce que ce genre d'événement se reproduise.
Quand on a de l'enthousiasme, je pense qu'on le transmet.
Tout à fait. Ouais, c'est comme, c'est contagieux, la
c'est
bonne humeur.
C'est carrément contagieux.
Ouais.
Donc, voilà.
Et c'est intéressant que vous ayez cette envie d'apporter justement ces moments-là dans une commune qui n'est pas la vôtre. C'est encore plus généreux en fait, de s'investir sur un territoire qui, à la base, n'est pas forcément le sien. Bien que, comme vous disiez, les petites communes commencent de plus en plus à se bouger. Enfin, c'est vrai qu'à Lucandiois, à Châtillon aussi, enfin, on voit une tendance à développer des événements artistiques et culturels, ce qui est chouette.
En dehors des vides-greniers, je ne sais pas que je n'aime pas le vide-grenier, mais en dehors des vides-greniers, on peut peut-être faire autre chose.
Tout à fait. Voilà, mais vous êtes quand même des habitués donc de la région, même si c'est plus une maison de vacances.
Non, c'est la maison de ses grands-parents.
D'accord, mais vous vivez à l'année quand même.
On n'y vit pas à l'année, non. On vient juste l'été, un peu plus que l'été. Sinon, le reste du temps, on vit à Villard-de-Lans, de l'autre côté du Vercors.
Ouais, je trouve ça incroyable. On vient juste l'été et on organise des événements pendant le moment où on est en vacances ici. C'est quand même chouette.
Absolument. Enfin, ça fait déjà quelques mois, puisque ça a pris un an, hein. C'était l'année dernière. Non, les journées du patrimoine, je ne sais plus.
Oui, septembre, 18 septembre.
Tu as la date, ouais. Michel. Donc, depuis septembre, j'y travaille, je pense, je réfléchis, j'en rêve. Et ben voilà, c'est fait.
Non, c'est admirable parce qu'effectivement, c'est un énorme travail. On ne se rend pas forcément compte. Ça demande quand même une vraie énergie. Et il faut y penser, effectivement. Il y a une sorte de stress permanent pendant des mois et des mois pour arriver à obtenir quelque chose d'efficace, de très bien dans ce domaine-là. Donc franchement, là, il y a une personne d'exception qu'il faut encourager. Et puis, si ça peut donner envie à d'autres de faire la même chose, ce serait génial. Ce serait génial. Moi, je préfère jouer dans des lieux et avec des gens comme ça que dans des endroits, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être un peu trop impersonnels parfois. même si il peut y avoir plus de monde, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Qu'il y ait moins de monde, c'est pas du tout un problème. Mmh. C'est la qualité du moment qui compte, quoi. Mmh.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter au micro de RDWA avant de, on va finir, on va écouter votre musique flamenco indien. Puis je voulais vous demander si vous aviez quelques mots à nous dire peut-être sur cette chanson.
Alors flamenco indien, je suis allé en Inde en 1985. L'année d'avant, j'avais beaucoup tourné avec un joueur de, avec un flamenquiste qui était un ami de Paco de Lucía, donc il était très 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 bon lui aussi. Et ça m'a, comme je disais tout à l'heure, je suis quand même influençable de ce point de vue-là au moins. Et quand je suis arrivé en Inde, j'ai écouté énormément de concerts. Il y en a un d'entre eux qui démarrait, j'ai cru entendre du flamenco. En fait, j'ai compris, on m'a expliqué, puis j'ai su que il y avait beaucoup de relations entre l'Inde et l'Occident, plus au temps du Moyen Âge qu'aujourd'hui. Et il y a aussi, beaucoup aussi cette influence de toutes ces tribus qu'on appelait des Tziganes, les Roms, les Romanichels, tout ça, qui sont partis du nord de l'Inde, qui ont traversé toute le... qui sont revenus jusqu'en Europe et qui ont rencontré en Espagne les Arabes qui, eux, remontaient, pas tout à fait au même moment, mais enfin, les cultures se sont rencontrées. Et donc, il y a des gammes qui sont les mêmes. La plupart des gammes que nous connaissons viennent, en fait, de l'Inde, ou sont en tout cas les mêmes que celles de l'Inde. Les Indiens ont 105 gammes. Nous, on en a 4-5. C'est pas pour dire qu'on est moins bien. Hein. On a d'autres qualités. J'ai pas de jugement de valeur du tout là-dessus. Mais donc, il y a cette sorte d'influence. Quand je suis arrivé donc en Inde, que j'ai rencontré, que j'ai vu ce concert, j'ai flamenco. J'avais commencé à composer quelque chose qui ressemblait à du flamenco. Et puis, ça a continué dans le sens un peu plus indien encore. D'où le nom de ce morceau qui est un morceau qui est très improvisé avec 3 ou 4 thèmes qui sont un peu comme des piliers. Je vais d'un pilier à l'autre et quand je suis inspiré, il y a plus de temps entre deux piliers que quand je le suis moi. On va dire ça comme ça. Donc c'est un morceau qui démarre un petit peu à la façon du raga, c'est-à-dire sans rythme au début, puis un petit rythme lent ensuite, puis ensuite le rythme s'accélère lentement pour se terminer d'une façon la plus endiablée possible. Voilà, le flamenco indien.
Eh bien, on va écouter ça tout de suite sur RDY. Il me semble que c'est presque 7 minutes de création musicale que vous nous offrez
oui,
sur les ondes.
7 minutes quelque chose, oui.
Merci à vous, merci d'être venu au studio.
Merci aussi à vous.
Merci pour ces belles initiatives et cette passion pour la musique.
Merci à Radio DIY et longue vie à Radio DIY.
Oui, merci.
Au revoir. Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Diwa.